pas du vent, le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, savez-vous que les plantes se parlent ? Leurs mots sont des molécules émises par leurs feuilles ou leurs racines et leur conversation porte sur les insectes agresseurs ou la quantité d'eau disponible. De nombreux chercheurs analysent ce langage prometteur pour l'agriculture. Ils se sont réunis cette semaine à Paris pour un colloque organisé par la Société française d'horticulture sur le thème « Quand les plantes se parlent ». Certains d'entre eux seront nos invités tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
Nous sommes en 2093. Un historien analyse les erreurs des civilisations occidentales qui n'ont pas réussi à enrayer le réchauffement du climat de la planète. Après des centaines de milliers de morts et des milliards de dollars de pertes, le constat est amer. La nature se déchaîne et des pans entiers de la planète sont devenus inhabitables. Ce scénario est le résultat d'un très sérieux travail de prospective mené par deux historiens des sciences américains, Naomi Oresk et Eric Conway. Leur livre « L'effondrement de la civilisation occidentale » publié aux éditions Les Liens qui Libèrent se lit comme un roman, une science-fiction qui dénonce notre inaction. Anne-Sophie Novel a rencontré Naomi Oresk lors de son passage à Paris.
It's hard to say exactly why we chose this type of fiction, but I guess the short answer is in our acknowledgments at the end.
Il est difficile, oui, d'expliquer pourquoi on a opté pour ce type de fiction. Mais en fait, la réponse se trouve dans les remerciements qui figurent à la fin de l'ouvrage. Je me trouvais avec Eric à une foire du livre et quelqu'un dans le public nous a posé la question « Mais pourquoi pas raconter ça sous forme d'histoire ?» J'ai d'abord trouvé la question bizarre, mais après, elle a traîné dans ma tête et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, intéressant.
C'est un exercice assez original parce que se mettre dans le futur, c'est aussi une façon de prendre de la distance par rapport au sujet et du coup de se sentir peut-être plus investi sentimentalement dans ce qui se passe.
Exactly. I think once we hit on this idea, it seemed really obvious.
Oui, effectivement, et c'est vrai qu'une fois que l'idée nous est venue, eh bien, on s'est dit, c'est vraiment un excellent truchement, cette mise à distance, parce que c'est vrai, c'est difficile quand on est plongé dans notre quotidien, notre présent, d'y voir clair. Et là, en se projetant et en imaginant ces gens dans l'avenir qui regardaient notre présent, eh bien, ça a tout débloqué, ça nous a aidé.
Des années sans hiver, des étés perpétuels, la sécheresse, la montée des eaux, des immigrations massives, des épidémies. On voit que les choses sont non seulement de pire en pire, mais qu'elles vont aussi de plus en plus vite. C'est une période de la pénombre que vous décrivez et qui mène à la fin de la civilisation en 2093. Pourquoi cette date ?
Eh bien, c'est essentiellement parce que la plupart des articles scientifiques qui essayent de décrire ce qui se passe et va se passer, fixé comme ligne d'horizon l'an 2100.
And in our research, one of the things we found was that over the past 30 or 40 years.
Oui, et puis surtout, on a constaté, bien évidemment, que depuis les 40-50 dernières années, les scientifiques ont vraiment tendance à sous-estimer la vitesse de ce réchauffement planétaire et du changement climatique. Donc, on a retenu vraiment cette date, cette butée où tout allait basculer, sur laquelle s'entendaient pas mal de papiers scientifiques, 2100. Et puis, on a retiré quelques années pour faire. Voilà.
Au-delà du désastre humain, vous insistez sur les idéologies politiques, économiques et financières et la façon dont elles nourrissent un complexe de la combustion du CO2. De quoi s'agit-il exactement ?
Well, in our first book, In Merchants of Doubt, we were interested in the question of why people would reject the scientific evidence.
Oui, eh bien, à travers cette notion de ce complexe de la combustion du carbone, on a essayé d'explorer la question suivante. Pourquoi est-ce que tant de gens rejettent les preuves pourtant établies scientifiquement qui devraient sonner l'alarme ? Eh bien, c'est en raison de puissants intérêts financiers et d'idéologie, d'engagement extrêmement idéologique. Et avec mon co-auteur, Eric Conway, on a essayé d'extrapoler un petit peu et de se demander, eh bien, que se passerait-il si jusqu'au bout, c'était ces intérêts financiers, cette idéologie du marché qui dominait.
Les pays développés possèdent un savoir-faire unique, mais les régimes néolibéraux privilégient le laisser-faire au point d'être incapables d'agir par eux-mêmes et se faire dépasser par la Chine, dont le régime autoritaire est plus efficace, dites-vous dans votre ouvrage. Est-ce une façon de dire qu'il devrait être plus responsable?
Exactly. That's exactly what we're arguing.
Oui, votre conclusion est tout à fait juste.
So what we wanted to point out was that if
oui, et donc nous cherchions à souligner que si l'on continue de nier l'évidence et les preuves scientifiques flagrantes, eh bien, les problèmes ne feront que s'aggraver et cela va favoriser les mouvements en coulisses de gouvernements beaucoup plus intrusifs et faciliter ainsi l'avènement des seuls gouvernements autoritaires.
N'est-ce pas un peu provocateur aussi comme positionnement?
Yes, it's supposed to be a bit provocative. The whole point is to make people really think about what is at stake.
Oui, ben bien sûr, c'est vrai que c'était l'effet recherché, hein, pour vraiment pousser les gens à réfléchir à ce qui est véritablement en jeu. Et il ne s'agit pas uniquement des phénomènes physiques qui peuvent inquiéter tout un chacun, mais il s'agit aussi de politiques, des politiques du quotidien et de nos institutions démocratiques.
Vous critiquez aussi ouvertement la culture scientifique et sa façon de considérer que croire à quelque chose qui n'existe pas est pire que de ne pas croire à quelque chose qui existe. Ce que les statisticiens nomment erreur de type 1 et de type 2. Pourquoi en est-il ainsi et ne peut-on pas inverser la vapeur?
We would like to argue that scientists have gone far too far. And they've created such a high standard.
Je crois qu'on peut affirmer que les scientifiques sont allés trop loin et qu'ils se sont fixés des normes, des standards, des exigences tellement élevées que cela les pousse, eh bien, à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et c'est ce qui s'est passé, car ça fait de très nombreuses années, en fait, que des scientifiques ont prédit ce changement climatique, mais ils ont décidé d'attendre, faute de preuves, ils ne pouvaient pas étayer suffisamment leurs affirmations. On a tellement attendu, maintenant nous avons les preuves, ce changement climatique existe, il est là. Et je ne veux pas dire qu'il est trop tard, bien sûr, je veux espérer qu'il ne soit pas trop tard, mais enfin, pour beaucoup de mesures, il est trop tard. Oui, et quand les enjeux sont si élevés, quand on parle d'enjeux si graves que sont la santé, le bien-être, la prospérité de l'humanité, je dois dire qu'il semble préférable quand même de commettre des erreurs de type 2 plutôt que des erreurs de type 1.
Et quel regard, quels sont aujourd'hui les principaux climato-sceptiques? Quels sont leurs principaux arguments et leurs principaux réseaux d'influence? Parce que j'imagine que c'est aussi une question que vous suivez de très près.
Well, the argument of the climato-skeptics is constantly changing, it's constantly shifting.
Oui, en fait, ces climato-sceptiques ne cessent de changer d'argument au fil du moment politique, de ce qui est le plus opportun, de ce qui frappera le plus à leur avis, mais ils ne font que recycler, deviennent vieilles antiennes. Enfin bon, au début, ils nous affirmaient que non, il n'y avait pas de changement climatique. D'ailleurs, on n'en avait pas la preuve, affirmaient-ils. Après, ils ont fini par reconnaître l'existence du changement climatique, mais ils disaient, nous n'avons pas la preuve que cela soit d'origine anthropique, enfin causée par l'homme. Et ensuite, ils ont dit, mais même si le climat change à cause de l'homme, eh ben, ça fait rien, parce qu'au final, on en tirera toujours quelque chose de bénéfique. Et puis, ils recyclent comme ça, au gré de la tendance politique du moment, du climat, si l'on peut dire, voilà, leurs arguments éculés.
Mais qui sont-ils et quels sont leurs réseaux d'influence?
Well, the net works of influence have been...
Leur réseau d'influence assez climato-sceptique, du moins aux États-Unis, eh bien, ce sont ce qu'on appelle les think tanks, les groupes de réflexion, et toutes sortes d'institutions qui se prétendent indépendantes, apolitiques et non partisanes. Mais en fait, on s'aperçoit que ces institutions ou ces groupes de réflexion ne sont absolument pas indépendants. C'est ce que nous avions montré avec mon co-auteur dans Marchand de doute, car en fait, ils sont lourdement financés par les lobbies de l'industrie du tabac, de l'industrie des carburants fossiles et de la pharmacie.
Je vais revenir sur une question un peu brûlante. Les gaz de schiste actuellement aux États-Unis, au Canada, ainsi qu'en France et d'autres endroits en Europe, on en parle beaucoup et vous avez l'air très critique dans l'ouvrage avec votre co-auteur sur cette question.
I am. The short reason I'm critical of it is because gas is gas.
Oui, en effet, nous sommes critiques avec mon co-auteur par rapport au gaz de schiste parce que, tout compte fait, le gaz, c'est du gaz, c'est-à-dire que c'est un combustible fossile et quand on brûle le gaz, ça génère des gaz à effet de serre. Voilà, point barre.
Et quel regard portez-vous sur le principe de précaution qui est souvent mis en avant par les écologistes et les lanceurs d'alerte?
The climate risk also is a risk where
on peut dire que cette exploitation folle des combustibles fossiles a généré d'énormes profits, mais ces profits ont bénéficié essentiellement à des personnes vivant aux États-Unis, au Canada, au Japon, etc. C'est vraiment, oui, les gens de la civilisation occidentale qui en ont bénéficié le plus. Or, avec les conséquences gravissimes du changement climatique, eh bien, tous les dégâts, tous les dommages vont être subis essentiellement par des peuples qui habitent dans d'autres parties du monde qui n'ont jamais bénéficié de la manne pétrolière, de la manne des combustibles fossiles. Donc, c'est aussi ce qui est très choquant et ce que ne reconnaissent pas les climato-sceptiques, c'est cette asymétrie flagrante ici entre les bénéfices et les risques.
And then one last point on this. The idea of judging risks and benefits presupposes that we all have good information.
Oui, alors bien évidemment, on ne peut pas juger ou peser les risques et les bénéfices sans information fiable et sans au préalable un accès garanti à l'information. Or, c'est ce qu'ont fait les climato-sceptiques. Ils ont empêché les gens d'avoir accès à des informations. Ils ont semé leur propre propagande. Ils ont fait de la désinformation, rendant ainsi très difficile pour le citoyen lambda de s'informer sur ce qui se passait réellement. C'est donc toute cette hypocrisie. Ils prétendent d'un côté que les gens doivent prendre leurs propres décisions, etc. Toute cette idéologie, par exemple, du libéralisme. Mais en fait, ils ne donnent pas les moyens aux gens de prendre leurs propres décisions sur la base d'informations éclairées.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
New civilization, all over this land, all over this land. Small ones have been small and smaller. Small ones have been small and smaller. New civilization. New civilization. New civilization. All over this land. All over this land. Small one have been small and smaller. Small one have been small and smaller. New civilization. Come my brother, come help me. Come my sister, come help me. Help me sing this song. Sing along, sing along. You sing along, sing along. New civilization. New civilization. New civilization. Africans and the Indians. The Africans and the Indians. Never throw stones against one another. Never throw stones against one another. The Africans and the Indians. The Africans and the Indians. Never throw stones against one another.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI. Nous sommes en compagnie de l'historienne des sciences américaines Naomi Oresk, co-auteure avec Eric Conway de La disparition de la civilisation occidentale, publiée aux éditions Les Liens qui libèrent. Anne-Sophie Novel l'a rencontrée lors de son passage à Paris.
Alors venons-en justement un petit peu à la nature humaine maintenant, parce que dans l'ensemble des termes satiriques que vous utilisez dans l'ouvrage, vous parlez d'optimisme adaptatif humain. De quoi s'agit-il et quel regard portez-vous sur la nature humaine ?
Right. Well, thank you for that. We intended the book to be somewhat satirical and hopefully somewhat
Oui, merci de dire ça. On voulait justement injecter une petite note satirique, comme ça une touche d'humour, parce que déjà le sujet est extrêmement sombre et on ne voulait pas que nos lecteurs soient trop déprimés.
So we made up this idea of human adaptive optimism, but it was drawing on terms that you do find in sort of evolutionary.
Oui, donc c'est pour ça, pour cette petite note d'humour, qu'on a évoqué cet optimisme humain adaptatif. En fait, c'est un peu inspiré de certains concepts de la psychologie de l'évolution de l'homme, qui prétend, enfin qui dit que, eh bien, les optimistes, ils trouvent des solutions plus facilement aux problèmes, donc ils vont réussir à surmonter les obstacles, alors que les pessimistes, eux, ont tendance à renoncer. Évidemment, les optimistes ne sont pas confrontés, enfin, ils refusent de se confronter à la réalité de la gravité de la situation.
In American culture in particular, there's a great commitment to what we call the power of positive thinking.
Oui, vous savez, dans la culture américaine, on aime bien faire référence au pouvoir de la pensée positive. Bon, certes, c'est vrai qu'il y a quelque chose de vrai dans cette pensée positive, mais ça comporte aussi toute une zone un peu plus étrange où, au nom de cela, eh bien, on peut s'enfoncer dans le déni, une sorte de méthode couée, je ne veux pas voir, jusqu'ici, tout va bien, continue-t-on de dire, alors que le train est en train de se précipiter vers la falaise.
Que pensez-vous, parce qu'on en parle souvent dans l'émission C'est pas du vent, de tous les mouvements citoyens de par le monde qui s'organisent pour essayer de changer la donne, d'améliorer leur situation au quotidien, de changer leur façon de réagir au changement climatique? Pensez-vous que ce soit des solutions qui vont quand même permettre d'améliorer un petit peu la situation?
Yes, absolutely. I think the grassroots movements are terribly important.
Oui, absolument. Je crois que c'est très important l'émergence de tous ces mouvements associatifs locaux et de citoyens, parce que, comme on le disait, enfin, si les gens perdent espoir, ils baissent les bras, ils abandonnent. Et je crois qu'il y a vraiment une grande valeur dans tous ces petites initiatives, quelques modestes soient-elles, mais qui émanent du terrain et qui poussent vers le haut.
And it also demonstrates that people do care about this issue. We have a lot of evidence from many countries around the globe.
Oui, et ça nous montre que, eh bien, les gens se préoccupent et veulent se soucier mieux de la planète un peu partout. On disait, on voit fleurir ces initiatives et on voit des citoyens dans le monde entier qui semblent se préoccuper davantage de ce problème que leurs leaders politiques. Donc, la volonté sociale, elle est là. Les gens veulent s'intéresser à la question et y remédier, mais c'est la volonté politique qui manque. En fait, ce sont plutôt des suiveurs politiques pour la plupart.
And, you know, if we think about the recent history of social movements in the United States, action by citizens on questions like civil rights or gay rights.
Et quand on regarde l'histoire des mouvements sociaux aux États-Unis, que ce soit l'obtention des droits civils ou les droits LGBT, etc., à chaque fois, ces mouvements sociaux ont précédé l'action législative et politique. Donc, je crois réellement en la puissance de ces mouvements d'action citoyens, et puis peut-être qu'à force, eh bien, les politiques suivront ce signe et décideront de suivre le mouvement que veulent prendre ces citoyens.
Et pour finir, si demain par magie on vous donne les moyens d'agir, par quoi commencerez-vous?
Oh, that's easy. I would impose a worldwide global carbon tax on all goods and services.
Because oui, oh ben c'est très facile. J'imposerai immédiatement et à travers le monde entier une taxe carbone sur l'ensemble des biens, produits et services. Ça enverrait un signal très fort sur le marché, parce qu'il s'agirait là d'intégrer enfin les coûts externes de cette surutilisation du carbone, et ça pousserait bien évidemment le secteur privé à réagir. Et puis, très simple aussi, je sais à l'avance comment j'utiliserai ces fonds à très bon escient. Je les répartirai en deux sommes égales. La moitié serait allouée aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, et l'autre moitié serait allouée à l'éducation des femmes.
Merci Naomi Oresk.
Merci.
La disparition de la civilisation occidentale s'est publiée aux éditions Les Liens qui libèrent. Restez avec nous sur RFI. Dans quelques minutes, juste après le flash d'info, nous vous ferons découvrir le langage des plantes. À tout de suite.